France Inter, le 18-20.
À chaque ministre sa patte, à chaque rentrée, il y a ce que l'on fait et aussi ce que l'on défait. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé déjà l'essentiel. Il l'a fait officiellement ce matin. Ce qui est fait par exemple, c'est le doublement des CP dans les quartiers défavorisés. On parle aussi de meilleure formation des maîtres, entre autres. Ce qui est défait, c'est la semaine qui revient à 4 jours dans les communes qui le souhaitent. Le latin, le grec, qui reviennent aussi reprendre leur place en cours. Et si même on allait encore plus loin cette fois avec des profs choisis par les établissements, c'est 10 ans dans l'air, on en parle. Si vous voulez, c'est vous qui avez la main, vos enfants entrent en CP, vous leur avez fait avaler l'option latin, le prof de votre fille est mal formé ou pas, eh bien c'est à vous de jouer.
Fabienne Saint-Ès, le téléphone sonne.
Et c'est Gilda qui commence. Bonjour à vous Gilda, bienvenue dans le téléphone sonne, on vous écoute.
Oui, bonjour. Eh ben, merci d'avoir pris mon appel. En fait, j'appelais parce que j'étais un petit peu perdu par rapport au rythme scolaire. Et notamment les passages de 4 jours et demi à 4 jours. Moi, j'ai des enfants qui vont passer à 4 jours cette année. Ma femme qui est enseignante qui reste à 4 jours et demi. Donc, ça, je trouve que c'est un peu le bazar. Et puis,
oui,
voilà,
ça va être
quoi,
compliqué
donc
de vous organiser, dites-moi, non?
On va emmener nos enfants au centre aéré, quoi, du coup. Et puis, en fait, je comprends pas trop, en fait, les démarches qui sont mises en place. Et puis, j'arrive pas à voir l'intérêt des enfants au final, quoi. Pourquoi on fait tous pataquès pour ça? Enfin, j'ai du mal à comprendre, quoi. Et à voir un petit peu au niveau pour les enfants. Enfin, je trouve que c'est pas logique tout ça, quoi.
On l'entend, votre confusion, Gilda, et on va tâcher d'y répondre ensemble. Pour vous répondre, ce soir au téléphone sonne, Liliana Moyano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la FCPE. Stéphane Crochet est là aussi, enseignant, secrétaire général SUNSA. Et puis Jean-Marc Huard aussi, directeur général de l'enseignement scolaire, avec Sonia Bourane, spécialiste éducation à France Inter. Il dit qu'il est perdu, Gilda, Jean-Marc Huard, et c'est vrai qu'en calculant, c'est le troisième changement de rythme en 9 ans. Donc en gros, quand on a une grande famille, on a vécu à peu près tout, finalement, en termes de rythme scolaire. Il va falloir que ça s'arrête, non?
Bah écoutez, je crois qu'on avait une situation qui n'était pas totalement satisfaisante pour l'ensemble des parents. On était sur 4 jours et demi, et puis je vous rappelle, hein, il y a quelques années, ça a créé aussi un petit peu d'émotion. Quelle est la volonté là? Là, c'est de pouvoir faire un pas en avant et de permettre là où c'est nécessaire, et c'était tout à fait l'objet, de passer sur une semaine de 4 jours. Finalement, comme c'était avant. Donc, on a permis une dérogation supplémentaire. On ne l'a pas imposée. Et d'ailleurs, vous avez
donc
encore...
chacun fait ce qu'il veut, finalement, d'une commune à l'autre. Ça, on l'a bien compris. Mais ça veut dire que dans des endroits, on a des activités. Dans d'autres, on n'en a pas. Dans des endroits, elles sont bien faites. Dans d'autres, un peu moins. Elle vient de là aussi, peut-être, la confusion de Gilda qu'on entendait à l'instant.
Mais je crois qu'une partie des inégalités de situation, elles sont dans la situation qui est précédente. On avait des inégalités de situation assez importantes en fonction des communes, hein, en fonction des activités périodicatives. Donc, il n'y a pas plus... d'inégalité. Au contraire, le choix de la semaine de 4 jours, c'est pas chacun qui décide. Ce sont des concertations dans les conseils d'école, avec les communes, et une proposition à l'inspecteur d'académie.
Stéphane Crochet, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est finalement qui voulait revenir pour ceux qui reviennent, hein, un tiers environ, à la semaine de 4 jours. Est-ce que ce sont les activités qui étaient trop chères, donc ce sont les communes qui préfèrent quitter le dispositif? Est-ce que ce sont les parents qui le préfèrent? Est-ce que ce sont plutôt les professeurs qui ne travaillent plus le mercredi? Au final, on se dit qu'avec si peu de temps, on n'a de toute façon jamais évalué ce système, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais.
Alors en effet, on n'a pas évalué, et je rejoins M. Huard, on a rencontré de nombreuses difficultés. Mais un moyen de résoudre les difficultés aurait été de s'y attaquer, vraiment, au fond, et de ne pas en démordre sur l'objectif d'une semaine de 5 matins favorable aux apprentissages des élèves les plus fragiles. Aujourd'hui, on aura une vraie inégalité entre les élèves sur le temps scolaire, sur le nombre de matinées, 20% de matins en moins pour les élèves les plus fragiles. Il fallait donc s'attaquer aux difficultés, il fallait continuer le processus d'amélioration. Cette réforme, elle était toute récente, elle s'était faite plutôt dans le conflit. On n'avait pas forcément fait le mieux quand on n'est pas capable de très bien se parler autour de la table.
Elle s'est faite dans beaucoup de politique aussi, surtout à l'époque où elle a été faite. C'est peut-être ça qui a un peu brouillé les pistes.
Elle a été très très politisée, voilà. Elle s'est faite complètement au moment des élections municipales et elle a été l'otage des campagnes des élections municipales.
Il y en a beaucoup des questions dans ce sens-là. Liliana Moyano, les les parents, d'une manière générale, vous les sentiez comment, vous, par rapport à cette réforme de 4 jours? La raison pour laquelle ils étaient contre, c'est quoi?
Écoutez, et effectivement, aujourd'hui, le sentiment, c'est un incroyable perdu, comme votre auditeur, parce que nous avons, et cette réforme, et ça a été dit, a été difficile à mettre en place. Il y avait des vrais ajustements à faire. D'ailleurs, notre fédération avait demandé des CDEN spécifiquement sur le bilan de la réforme des rythmes, sur les projets des territoires. Nous les avons pas obtenus et nous pensons que ça s'est fait beaucoup trop vite. Il faut savoir que le décret est sorti le 28 juin, la fermeture d'écoles arrivée. Donc, parler des concertations sereines avec les parents, c'est pas tout à fait une réalité. Et là, on va avoir effectivement des enfants qui vont avoir le même programme, qui va devoir se mettre en place en 4 jours, et d'autres qui vont avoir 4 jours et demi. Donc, nous sommes vraiment très, très étonnés de la précipitation, et ça n'amène pas l'apaisement par rapport à ces questions-là. Et enfin, nous sommes toujours avec un calendrier scolaire qui est extrêmement déséquilibré. On a moins des journées d'école que dans les autres pays et des temps des ruptures dans les rythmes très importants.
Je vais vous laisser répondre puisque vous le souhaitiez, Jean-Marc Huard. Je voudrais juste vous livrer ce message sur franceinter.fr très rapidement. Je ne peux qu'exprimer mon inquiétude quant au retour pour certains de la semaine de 4 jours. Aucun pays d'Europe, même pas un petit sur lequel nous pourrions nous appuyer, ne le pratique. Une réforme idiote d'une part et totalement inégalitaire d'autre part, fait du bon vouloir des communes. Vous n'êtes pas sorti de ce débat-là. Il tiendra toute la rentrée et sûrement une partie de l'année. Allez savoir si l'année prochaine ce sera réglé.
Écoutez, on a 35% des communes qui ont souhaité repasser à la semaine de 4 jours. Ça s'est fait effectivement en concertation, hein, dans le cadre des conseils d'école et avec les municipalités. On n'a absolument aucune étude qui prouve à ce stade que la semaine de 4 jours et demi permettait d'améliorer la réussite des élèves. Parce que ce qui importe, c'est la réussite des élèves.
C'est ce que disent ceux qui critiquent, en fait. Il n'y a pas d'études qui disent que c'est mieux, il n'y a pas d'études qui disent que c'est moins bien.
Je vais vous donner un chiffre très, très, très clair. L'absentéisme, notamment en école maternelle, augmente quand la semaine est à 4 jours et demi, très clairement. Ça signifie que les élèves ont moins d'apprentissage. On avait une situation où on avait 20% des écoles qui n'avaient pas cours le vendredi après-midi. Ça veut dire que la coupure dans les apprentissages était finalement beaucoup plus importante que dans le cas de toute autre organisation scolaire. Donc la situation n'était pas idéale. Là, encore une fois, on n'a pas supprimé, ça reste la norme, hein, la semaine de 4 jours et demi. On a rendu une liberté aux municipalités et aux conseils d'école pour avoir la situation la plus adaptée.
Sonia Bourin, rapidement, puis on retournera au standard.
Mais quand on était à la semaine de 4 jours, tous les enseignants disaient c'est très difficile de boucler les programmes, les journées sont très lourdes, sont très chargées, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ensuite mis en place la réforme de la semaine, qu'on est repassé à la semaine de 4 jours et demi.
Vous voulez réagir, pardon, Jean-Marc Huard?
Oui, enfin... Encore une fois, hein, je pense qu'il y a quelques années, quand la semaine de 4 jours et demi s'est faite, on s'interrogeait sur l'opportunité. On a beaucoup de témoignages, et c'est le cas dans les écoles qui ont souhaité revenir à la semaine de 4 jours, des témoignages d'enfants fatigués. Finalement, la semaine de 4 jours et demi, la réforme des rythmes scolaires, n'était pas faite pour l'organisation des activités périscolaires. C'était faite pour réduire effectivement le temps d'apprentissage dans la journée. Or, il se trouve que les parents d'élèves travaillent, ils ont des horaires, donc... Les enfants restaient en activité périscolaire et se levaient une demi-journée, et se lèvent une demi-journée de plus. Voilà. Donc, en fonction des situations, on a rendu une liberté supplémentaire.
Allez, on retourne au stand à retrouver Patrice. Bonsoir Patrice, bienvenue sur France Inter, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Je partirai d'un constat, c'est que l'une des principales difficultés, c'est la maîtrise du français. Avec la nécessité de consacrer des heures non négligeables, les classes bilingues, moi je pense, vont aller à l'encontre du temps nécessaire à la maîtrise de la langue maternelle. Alors si il y a une solution, mais alors ça il faut vraiment s'attacher de façon très approfondie, ce serait de simplifier le français, aller encore au-delà, plus profondément, pour continuer la réforme de l'orthographe.
Oula.
Il n'est pas question du tout. Ah oh, là là, je sais, on va faire bondir pas mal de gens.
Non, mais je trouve ça intéressant. Pour simplifier le français, vous décidez de passer par la simplification de l'orthographe. En même temps, c'est un peu radical, mais je vous en prie, pourquoi pas. Vous êtes ancien instituteur, Patrice, c'est ce que je vois.
Voilà.
Ça veut dire que vous savez de quoi vous parlez.
Voilà. Il n'est pas question du tout d'écrire en phonétique comme certains proposaient. Pas question. Je pense quand même qu'on peut mettre un bon coup de balai sur certaines exceptions parce qu'on y passe du temps. N'en déplaise aux snobs et aux précieuses ridicules qui s'extasient devant une prétendue richesse de la langue. On peut garder l'élégance de notre langue qui est très riche, mais on peut simplifier mal de choses. Maintenant, je veux dire une chose aussi aux personnes qui sont autour de vous.
Allez-y rapidement.
Il y a beaucoup de gens qui sont heureux de faire ce métier. Mais alors, je peux vous assurer qu'ils sont exaspérés par les exigences, et les charges administratives, les dossiers dévoreurs de temps d'une parfaite inutilité. Alors, s'il vous plaît, prenez un peu pitié des enseignants, arrêtez vos histoires de charges administratives.
Voilà, on a bien compris votre message, Patrice-Stéphane Crochet. Moi, je voudrais quand même vous entendre réagir, parce que vous êtes enseignant aussi. Simplifier le français au maximum, parce que ça aide finalement à la compréhension de cette langue et à faire avancer les élèves. Qu'est-ce que vous en dites ?
Je pense qu'il ne serait pas judicieux de réouvrir une nouvelle guerre sur la langue.
On
voit bien
ouverte.
Comment des réformes de l'orthographe qui avaient 15 ans, pour lesquelles on a découvert l'année dernière qu'elles avaient des conséquences, ont redonné un débat dans notre pays. La question de l'appropriation...
Derrière la question, il y a celui aussi, par ailleurs, de l'échec scolaire après le CP, etc.
C'est un vrai sujet, ouais. L'appropriation et la maîtrise de la langue écrite et aussi de la langue orale, parce que c'est un vrai grand sujet d'inégalité entre les élèves, d'inégalité sociale. À l'école, on sait encore trop peu, alors on le sait relativement bien le faire à l'école maternelle, puis plus on avance dans le système éducatif, plus on se concentre sur la langue écrite. Et on laisse le monde extérieur, la famille, les occasions, les expériences que l'on peut avoir, structurer la maîtrise de la langue orale, qui est pourtant celle sur laquelle on se débrouillera, on sera jugé, on trouvera un emploi, on trouvera une place. Donc il y a un vrai objet, mais un objet de professionnel. Donc en revanche, je remercie notre auditeur, et d'ailleurs
Patrice.
Mon collègue, pour saluer le professionnalisme des enseignants. Ils sont engagés, c'est vrai qu'ils déplorent une dérive administrative de leur métier, ils ont parfois assez régulièrement l'impression de remplir de plus en plus de papiers au détriment du temps qu'ils passent à se préoccuper des élèves. Ils ont aussi besoin d'apports en termes de formation, ils sont très très demandeurs. C'est une volonté, et la question de la maîtrise de la langue est un vrai objet pour eux de formation, quel que soit le niveau d'enseignement et quelle que soit la discipline d'enseignement.
Jean-Marc Huard, est-ce que c'est aussi finalement autour de ces objectifs-là, ce qu'on disait sur la langue tout à l'heure et la maîtrise du français, que vous avez choisi de dédoubler les fameuses classes de CP dans les zones prioritaires par exemple? Est-ce que c'est en partant de ce genre de constat-là?
C'est exactement en partant de ce constat-là. La maîtrise de la langue, c'est le point essentiel, c'est l'objectif qui doit absolument faire consensus. Je pense que l'ensemble de la communauté éducative est mobilisée autour de cette question.
Je vous coupe, pardonnez-moi, qu'on va rappeler quand même 20% des élèves
Absolument.
Ne maîtrisent pas la lecture en fin de primaire. C'est
Absolument.
Un chiffre qu'il faut garder en tête.
C'est pour ça que le ministre Jean-Michel Blanquer a souhaité que la première des priorités de l'école aujourd'hui soit 100% de réussite en fin de CP. Et c'est vrai pour les compétences fondamentales que sont lire, écrire, compter et respecter autrui. C'est un objectif absolu dont il ne faut absolument pas déroger. Il y a urgence. Et la mesure que vous évoquez il y a un instant qui va mener au dédoublement de 2500 classes de cours préparatoires dans les zones d'éducation prioritaire permet de focaliser un effort là où la difficulté scolaire est la plus importante.
Liliana Moyano, à la FCPE, de ce dédoublement, on en dit quoi? Les craintes que vous pouvez avoir, quelles sont-elles? Ou est-ce que vous dites, banco, on n'a qu'à essayer ça?
Écoutez, la FCPE a toujours été pour les petits effectifs, parce que nous pensons effectivement qu'il est important de pouvoir faire un travail vraiment très proche pour chaque élève et de construire autour de chaque élève des trames pédagogiques et arriver à le pousser et à bien évidemment qu'il s'en sorte. Par contre, nous avons effectivement des questions concernant les moyens. Bon, le ministre a annoncé qu'il y aurait une augmentation du budget.
Il n'a pas dit combien d'ailleurs.
Un milliard, voilà.
Autant pour moi.
Il y avait le dispositif plus de maîtres que des classes qui nous semblait extrêmement pertinent et intéressant parce que c'était pas seulement renforcer la présence d'enseignants dans une classe, ça permettait aussi de permettre les projets en copédagogie, en transversalité avec deux enseignants, en gardant les enfants et en sortant de l'isolement les enseignants face à la classe. Donc là, il nous a précisé qu'il y aurait un certain nombre de ces enseignants qui viendraient pour la création ou le dédoublement de...
Donc on ne déshabille pas Pierre pour habiller Paul, Jean-Marc Huard,
voilà.
Entre les dédoublements de classe et aussi le ni maître ni élève.
Plus de mètres,
plus
de mètres de classe, peut-être pour nos auditeurs, c'est effectivement un enseignant supplémentaire dans l'école qui est en quelque sorte qui peut intervenir dans les différentes classes. Alors à la rentrée, nous avons 75% des professeurs plus de mètres que de classe, comme on les appelle, qui restent en poste. Le redéploiement en quelque sorte vers les CP dédoublés ne concerne que 25% de ces enseignants. Et c'est un dispositif que nous continuons à suivre puisque nous allons continuer à l'évaluer. En revanche, ce que nous avons remarqué, notamment au travers des différentes observations qui ont pu être faites sur ce dispositif, c'est que l'apport, je dirais, pour chaque qu'une des classes est quand même sur un horaire relativement limité. Le professeur ne peut pas être partout, partout tout le temps. Et donc, compte tenu des priorités que j'ai énoncées tout à l'heure, compte tenu de la nécessité de concentrer l'effort sur les premières années de la scolarité, notamment sur le cours préparatoire, c'est pour ça qu'on a voulu, dans les classes de l'éducation prioritaire, et ça va se poursuivre l'année prochaine, également dans les cours de CE1, et les années suivantes aussi, nous avons voulu concentrer l'effort là où la difficulté scolaire est la plus importante.
On parlait d'évaluation à l'instant, c'était avec vous Sonia Bourin, cette question que je vous soumets de Christian qui dit à propos d'évaluation notamment des CP, comme la maternelle n'est pas obligatoire, qu'est-ce qu'on peut bien évaluer? À quoi ça sert, Stéphane Crochet, à votre avis?
Alors je vais être assez sévère.
Allez-y.
Sur ces évaluations CP qui nous ont été annoncées hier. Ça tient pas tant à la question de école maternelle ou pas école maternelle. Ces évaluations de grande section, elles ont, ces évaluations de début d'année au CP, elles ont pour objectif de donner à l'enseignant un bilan sur les acquis de ses élèves au moment où on démarre l'année. Si nous on est assez critique, c'est parce que ce travail d'évaluation de début d'année des compétences des élèves à l'entrée au CP, il est déjà fait par les enseignants avec des banques d'outils relativement complets, d'ailleurs très souvent fournis par l'institution et développés avec les inspecteurs en circonscription. Et donc, on avait là des outils assez complets qui venaient quand même compléter les bilans fournis par les enseignants de grande section, parce que quand même, la majorité, la très grande majorité des élèves entrant au CP viennent de grande section. Et là, on va avoir un dispositif national avec des évaluations pour lesquelles on est assez négatif sur la qualité du produit, qui nous semble va nous donner assez peu d'informations. Pour faire bref, pour évaluer une seule compétence, l'élève aura une ou deux questions qui lui donnera l'occasion de répondre. Et donc, nous aurons une ou deux occasions de vérifier si oui ou non il sait. Donc, finalement, s'il ne sait pas, nous serons obligés d'y revenir pour savoir si vraiment, au fond, il ne le sait pas. Donc, nous allons avoir un dispositif relativement lourd en termes de gestion administrative derrière, puisque il va falloir aussi ensuite rentrer les résultats des élèves dans des tableurs Excel pour en sortir des fichiers. Bon, donc quelque chose d'assez lourd par rapport aux résultats pédagogiques. Et surtout, nous, ce que l'on ne voudrait pas, c'est que ça crée du stress, de la pression pour les familles, pour les élèves.
On a toujours l'impression qu'il y a quelque chose de terriblement comme un jugement à chaque fois qu'on parle d'évaluation. Il n'y a pas moyen de prendre des évaluations de manière beaucoup plus détendue.
Mais
on parle de CP, ils sont tout petits.
Exactement, et les enseignants évaluaient. C'est-à-dire qu'ils faisaient le travail de repérage des acquis ou des faiblesses, des fragilités de leurs élèves. En revanche, ce n'était pas annoncé tambour battant, avec par ailleurs un objectif de 100% de réussite au CP et quelques discours sur le redoublement. Nous ne voulons pas que les familles, notamment les plus fragiles, les moins à l'aise avec l'école, rentrent là avec de la pression. Le CP, c'est une classe importante parmi plein d'autres classes importantes, dans une continuité d'apprentissage. Et les nouveaux programmes, les programmes tout récents, ils n'ont qu'un an, ont bien dit que l'ensemble de l'acquisition des compétences dans le lire-écrire s'étale sur l'ensemble du cycle 2, CP, CE1, CE2.
Jean-Marc, rapidement, à quoi ça va servir d'évaluer ces tout petits gamins de CP, finalement?
Ce n'est que du positif. Le positif, c'est quoi? Le positif, c'est de pouvoir proposer aux enseignants des outils harmonisés, construit avec des chercheurs, construit avec des représentants de l'inspection générale, construit avec des représentants de l'institution, qui puissent être harmonisés et dont on est sûr de la qualité et dont on est sûr du fait qu'ils pourront ces livrets évaluer toutes les compétences. Donc on est véritablement dans quelque chose de positif. Alors il faut surtout pas stresser. Quel est l'objectif derrière tout ça? L'objectif, c'est de permettre aux enseignants de construire et d'adapter leur pédagogie dans un objectif qui est un objectif, encore une fois, de 100% de réussite. Ça n'a pas été annoncé hier, c'est dans le programme présidentiel du président de la République. On le sait depuis un moment déjà.
Sonia Bourane, rapidement, on va retourner au standard juste après.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de mise en concurrence des écoles, des collèges ?
Pas du tout, parce que il n'y a absolument aucune publicité,
est-ce qu'on crée des statistiques après ces évaluations ?
Il n'y a aucune remontée nationale avec ces évaluations.
Donc elles vont rester dans le bureau du directeur ?
Elles vont remonter à l'inspecteur de circonscription, parce que l'inspecteur de circonscription, il est là aussi pour construire avec les enseignants les formations dans le cadre d'un dialogue. Donc je disais, c'est que du positif. On dispose enfin, et d'ailleurs beaucoup d'inspecteurs le réclamaient, d'un outil permettant de construire une véritable animation pédagogique en fonction des besoins.
France Inter, Fabienne Sintès, Un jour dans le monde.
Et c'est Stéphanie qui nous rejoint. Bonjour Stéphanie, bienvenue sur France Inter, on vous écoute.
Oui, bonjour. Alors moi, j'avais une question et je souhaitais élargir un peu le débat.
Allez-y.
Sur les différents acteurs éducatifs auprès des enfants. Donc moi, je suis une animatrice, directrice d'accueil de loisirs. La réforme de la semaine, enfin lorsqu'on est passé à 4 jours
des
et demi,
scolaires.
Sur les rythmes scolaires, il y a énormément d'animateurs, de directeurs qui ont été recrutés pour assumer les temps qui s'étaient libérés. On a énormément travaillé sur des projets éducatifs de territoire. On a beaucoup travaillé pour se faire reconnaître par les parents. On commençait à bien travailler avec les enseignants, à réussir à avoir une confiance tous ensemble. Aujourd'hui, tout est terminé. Enfin, par exemple, moi, dans ma commune, on n'est pas repassé à 4 jours et demi, mais c'est compliqué là cette année, sans savoir quel coup près va tomber à la fin de l'année. Enfin, c'est compliqué de garder une motivation. Moi, j'aurais voulu le positionnement, que vos invités s'adressent aux animateurs. Là, c'est 250 000 animateurs qui vont être licenciés, en plan social. J'aurais voulu aussi le positionnement de l'UNSA là-dessus, du syndicat de l'UNSA sur, qui s'adresse clairement aux animateurs qui là ont vu leur poste sauter. Et je voulais aussi préciser.
Allez-y, mais ce soit la dernière.
oui, la dernière. C'est-à-dire que par rapport à ce que subissent là les animateurs suite à la réforme de la réforme des rythmes, c'est aussi la suppression des CAE là.
La suppression des quoi, pardonnez-moi ?
Les animateurs sont les premières victimes de cette réforme. Merci. Après avoir travaillé énormément et avoir pris énormément de coups et avoir tout donné pour essayer de faire de cette réforme une réussite.
On a bien compris, Stéphanie, ce que vous disiez. On a bien compris aussi, effectivement, on peut comprendre que ça a été tellement long à mettre en place, il a fallu instaurer une confiance avec les écoles, avec les parents, et puis maintenant on met tout ça un petit peu à la poubelle, Stéphane Crochet, puisque vous avez été interpellé directement. Qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce qu'on répond à Stéphanie ? Qu'est-ce qu'on lui dit ?
Que je déplore.
Merci beaucoup, mais tant pis, au revoir.
Mais vraiment pas. Moi je déplore avec elle ce retour en arrière. Avec la réforme des rythmes et la création des temps périscolaires, s'est posée une question que jusque-là on ne s'était pas posée. Que font les enfants sur ce temps périscolaire après la classe, mais pas encore à la maison ? Voilà, tout le monde s'est posé la question. Du coup, on est rentré dans un débat de la qualité des activités qui étaient proposées, alors que personne ne s'était encore jamais demandé, dans beaucoup d'endroits, on ne s'était jamais demandé ce qui se passait sur le temps de garderie. Et du coup, dans les territoires, localement, on est rentré dans un processus de progrès, d'amélioration, de professionnalisation, et Stéphanie en est un témoignage. On a recruté sur place des professionnels. On est rentré dans autre chose. Et donc, ce sont de nouveaux espaces qui étaient en train de s'ouvrir. Je le disais en tout début d'émission, des difficultés, il y en avait encore en juin, il y en aura encore vraisemblablement la semaine prochaine, mais on était dans un processus d'amélioration. Et c'est quand même pas la même chose que de se dire que on a à améliorer quelque chose qui ne se discute pas, ou alors de se dire que peut-être on peut le passer à la trappe. Et par ailleurs, on n'a pas parlé de question d'argent, alors que c'est avant tout la question d'argent qui est la boussole en matière de est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on ne continue pas les activités périscolaires.
C'est un peu ce qu'on disait sur les raisons effectivement de l'arrêt. Les raisons sont très partagées. Parfois, elles peuvent venir des profs, parfois des parents, mais l'une des raisons essentielles, et est-ce que c'est pas d'ailleurs la raison essentielle, Jean-Marc Huard, ça vient des mères aussi, parce que ces activités coûtaient cher, qu'elles ont été au début aidées et puis qu'à terme, elles ne le seraient plus. Ce qu'on entend, vous avez entendu comme moi, Stéphanie, on entend parler de gâchis, en fait. C'est ça. On entend parler de déception et de gâchis. On entend un trop vite. Vous l'entendez aussi ou pas?
Alors, je connais pas la situation personnelle de Stéphanie. Monsieur Crochet, de processus d'amélioration. Moi, ce que je remarque, c'est que dans le cas de la liberté nouvelle qu'on a donnée, on a 35% des communes avec des concertations dans les écoles qui ont voulu revenir au rythme de 4 jours. Et qu'une majorité d'écoles restent encore au rythme de 4 jours et demi. La dynamique enclenchée sur, on va dire, l'échange, la discussion entre le scolaire et le périscolaire, elle va continuer. Quelque chose, effectivement, est amorcé. Les périodes périscolaires ne seront pas exactement sur la même temporalité, mais restent dans un certain nombre de communes. La question du mercredi est une question absolument essentiel. Le ministre de l'Éducation nationale, qui a aussi en charge la jeunesse, veut travailler précisément sur le temps qu'on appelle extrascolaire, qui est celui du mercredi. Et puis, même dans un rythme de 4 jours, toute cette discussion et toute cette dynamique peut perdurer.
J'ai une question piège, tiens, alors pour celui que vous voudrez sur franceinter.fr, pourriez-vous nous donner le nombre de réformes qui concernent l'enseignement dans les 10, 20, 30 et dernières années? En creux, est-ce qu'il n'y en a pas eu une bonne trentaine sur ces 30 dernières années et que peut-être ça fait beaucoup? Est-ce que vous avez ce chiffre, vous, Stéphane Crochet, vous le savez?
Je ne sais pas si on parle de réformes en règle générale.
C'est donc encore plus compliqué que ça
et
en a
si
l'air.
Si c'est de réformes en règle générale, je pense qu'on dépasse très largement la question des 30 réformes sur les 10 dernières années. Moi, j'ai un chiffre, c'est 8 ministres en 15 ans. Et donc, quand même, la tentation pour chacun ou chacune d'entre eux de marquer son passage, de marquer sa rentrée, voire sa première rentrée. Et encore heureux, le système a plus de continuité que les discours qui peuvent être portés sur lui-même.
Voilà, avant qu'on en arrive à ni maître ni élève, comme je l'ai suggéré moi-même tout à l'heure, je voudrais qu'on retourne au standard de France Inter. C'est vous qu'on écoute, Jean-Yves. Bonsoir, bienvenue.
Oui, bonsoir et merci de prendre mon témoignage. Donc voilà, je suis le parent d'un enfant qui rentre en seconde, général et technologique, et qui est germaniste, mais dans un lycée qui ne fait pas de latin. Donc en fait, il est affecté sur un lycée qui ne lui permet pas de poursuivre ses 3 années de latin, et qui ne permet pas non plus, puisqu'il est germaniste, de suivre un enseignement optionnel à choisir parmi les options qu'on appelle d'exploration, mais qu'on peut emmener jusqu'au bac. Donc du coup, en fait, mon fils se retrouve finalement, de facto, sur un pied d'inégalité face à d'autres élèves qui peuvent, eux, choisir des options d'exploration que l'on peut, dans ce lycée, emmener jusqu'au bac. Donc, mon témoignage est là pour dire qu'en fait, la situation est quand même assez compliquée à 4 jours de la rentrée. Je ne sais pas quoi faire pour le faire changer d'établissement, pour lui faire reprendre le latin, finalement, après 3 ans, de très bonnes notes. Voilà, c'est un peu mon témoignage et ma question. Que faire dans ces cas-là, dans des temps très courts, qui contacter?
Merci beaucoup de votre question. Et Jean-Marc Huard, qui est le directeur général de l'enseignement scolaire, va vous trouver une réponse et une solution immédiatement. Ce qu'il dit en creux aussi, c'est qu'effectivement, vous avez remis, si je puis dire, le latin et le grec, un certain nombre d'options, mais parfois les heures étaient déjà distribuées. Ça devient compliqué ensuite de s'en sortir. Qu'est-ce qu'il fait, Jean-Yves, pour son fils qui veut continuer le latin?
Alors, je pense que là, on est dans une situation un petit peu différente et je vais revenir au point que vous évoquez. Ok, vous êtes dans quelle région ?
Jean-Yves.
En Ile-de-France.
Vous êtes en Ile-de-France. Bon, on a une densité d'établissements en Ile-de-France aussi, qui permet éventuellement de regarder dans les lycées voisins si l'option peut être proposée. Après, il y a la possibilité d'être sur des cours à distance.
Oula, néanmoins, vous avez essayé les lycées voisins, Jean-Yves, j'imagine déjà, non ? Jean-Yves, les lycées voisins, vous avez essayé, j'imagine ?
Voilà, alors, bon, c'est très compliqué. En fait, on sait très tardivement les options qui sont retenues. Mmh. Déjà, les élèves en seconde doivent faire des choix dont ils ont le résultat à la rentrée, en fait. Mmh. Hein, donc, c'est très difficile de se retourner. Et puis, c'est très difficile aussi de contacter parfois les personnels pour leur demander justement s'il y a un moyen, en dernier recours, pour changer d'établissement et obtenir une place ailleurs. Les classes sont constituées. J'ai bien compris que les plannings étaient souvent très compliqués à changer. Les établissements sont parfois avec de nombreux élèves, hein, et justement de nombreuses options aussi qu'il faut combiner. Enfin, c'est un vrai parcours du combattant pour avoir l'information en temps utile, pour savoir finalement ce qui est retenu pour son enfant, et au final, essayer de changer les choses en dernier recours. Voilà, c'est un peu le témoignage que je voulais apporter, et puis essayer de trouver une solution très rapidement, là maintenant, à 4 jours de la rentrée.
Merci pour votre témoignage. Effectivement, 4 jours, ça fait beaucoup. C'est aussi la lourdeur de ce que peut être l'éducation nationale, d'une certaine façon, non, peut-être un peu, Jean-Marc Huard.
Oui, ce que je voulais dire, peut-être plus largement sur l'enseignement du latin et du grec ancien, c'est que le ministre a souhaité véritablement rétablir les enseignements de latin et de grec ancien, estimant que la culture latine était, et notamment était essentielle, et contribuait de manière extrêmement forte à la maîtrise de la langue. C'est pour ça que dans les assouplissements qui ont été apportés à la réforme du collège, on a prévu aussi un enrichissement des enseignements, et on a prévu justement d'offrir davantage de latin, et on a une augmentation assez substantielle des heures de latin qui sont proposées. Alors, il faut continuer le travail, hein, et faire en sorte qu'on puisse avoir dans cette offre d'options une continuité plus grande, notamment au travers des lycées, et c'est de manière à pallier la difficulté rencontrée par notre auditeur.
Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir.
Et merci de nous appeler. Bienvenue sur France Inter. On vous écoute.
Alors moi, je vous appelais en fait parce que je vous entends parler de toutes ces nouveautés pour la rentrée. Et vous parliez notamment de la lourdeur de l'éducation nationale. Et donc moi, je suis néo-titulaire, donc enseignante du premier degré. Donc néo-titulaire, ça veut dire que j'étais stagiaire l'année dernière. Et donc là, donc pour la première année, je vais prendre en poste. Mm-hmm. Sauf que donc là, on est le 29 août et qu'à l'heure actuelle, je ne sais absolument pas où je serai affectée, quel niveau je pourrais avoir. Et donc toutes ces réformes, tous ces débats me semblent un petit peu vains, il me semblerait que vraiment la priorité serait vraiment de repenser la formation des enseignants, puisque moi je saurai jeudi pour la pré-rentrée qui a lieu vendredi, le lieu où je vais enseigner, et je trouve ça honteux vis-à-vis des enfants, des parents, des familles, qu'on laisse des enseignants comme ça 2 jours pour se préparer à faire classe.
C'est ça, parce que ce que vous dites, c'est que vous ne serez pas prête à la rentrée, en fait, en face des élèves.
Je vois pas comment je peux être prête, sachant qu'en plus, je n'ai jamais enseigné. J'ai une demi-année j'ai une année de stage d'expérience. Et donc, je peux me retrouver lundi face à des CP. Je trouve ça scandaleux. Pour les familles, c'est irrespectueux, je dirais, à la fois des profs, des familles, des enfants. Comment on peut avoir des 100% de réussite au CP quand on met des profs qui ont... Et j'avais 2 mois pour me préparer cet été, quoi. Donc je trouve ça un peu dingue. Et il y aurait quelque chose à revoir, à mon sens, à ce niveau-là, quoi.
On vous a entendu, Marie. Stéphane Crochet, vous qui êtes secrétaire général du SE UNSA, est-ce que vous en avez beaucoup des cas comme celui-là? Est-ce que vous en recevez beaucoup? Vous en entendez beaucoup? Des jeunes profs qui disent, attendez, c'est trop rapide, je ne suis pas bien formé, j'arrive au dernier moment dans la classe, on ne me dit pas les choses. Est-ce que ça existe beaucoup ou pas? Ou est-ce que
oui,
Marie est un cas particulier?
Alors, on a évidemment beaucoup de nos nouveaux collègues qui se trouvent insuffisamment solides pour aller affronter la rentrée, et dans une part moindre, mais quand même importante, des collègues qui, aujourd'hui, ne savent toujours pas où est-ce qu'ils vont aller travailler la semaine prochaine. Bon, cette part-là, elle est moindre. Elle est le témoin d'un système qui gère à flux tendu, et c'est compliqué, et on cherche depuis de nombreuses années maintenant, hein, quelles que soient les majorités politiques, à surtout ne pas avoir trop d'enseignants et ne pas trop recruter. Du coup, on gère à flux tendu et on découvre les situations un peu au dernier moment. Enfin, en tout cas, il reste au dernier moment un certain nombre de situations à couvrir. En général,
surtout quand on parle de très jeunes profs, en fait,
La maison éducation nationale fait très bien le boulot. Il y aura quelqu'un dans chacune des classes la semaine prochaine. Ah, en revanche, pour cette jeune collègue, voilà, comme pour plein d'autres jeunes collègues,
tu auras sûrement une classe, mais avec un stress supplémentaire inutile.
Ça va être
inutile.
Un grand stress. Ah, ça va être terrible. Et eux, ils vont chercher à rassurer tout le monde en face d'eux, les élèves, les familles, leurs collègues parfois, et vont tout faire pour faire face et pour y arriver, et on les met en situation difficile, et ces premiers pas dans le métier, c'est souvent des premiers pas qui marquent durablement. Donc nous avons largement à améliorer la façon dont on rentre plus progressivement dans ce métier. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres métiers comme ça
où on confierait
les clés? Alors, il ne doit pas y avoir des clés, mais les clés d'un avion à un pilote qui n'est pas très très sûr, là comme ça, et allons-y, il faut y aller.
Je crois qu'il n'y a pas de clé. Sonia Bourane, pour une remarque.
Peut-être pour rassurer tout le monde, il faut aussi rappeler une règle en général qui est appliquée, c'est que les néo-titulaires ne sont pas affectés sur les classes de CP. On considère souvent, en général. On considère souvent qu'il faut des professeurs
expérimentaux pour la FCPE.
Voilà, permettez. Là, effectivement, on ouvre un dossier très important qui est celui de la formation, de la récréation de la formation des enseignants, la formation continue initiale qui a été quand même extrêmement impactée les années précédentes, et également on part quand même d'une suppression de postes qui avait été importante et qui crée cette situation qui a été rappelée là, des flux tendus, effectivement, où il y a une vraie tension par rapport aux enseignants, par rapport à ces postes-là, avec le projet de doublement des classes, qui est une bonne chose, nos inquiétudes sont aussi celles-là. Est-ce qu'il y aura suffisamment d'enseignants? Est-ce comment on arrivera à rattraper en termes de formation et en termes de nombre d'enseignants les besoins?
Puisqu'il nous reste un peu plus de 2 minutes au téléphone, je voudrais donner la parole à Patrick, parce que vraisemblablement, Patrick, vous allez poser l'une des questions qui fâchent. On vous écoute.
Bonjour.
Bonjour. Bonsoir.
Donc, je suis parent d'élève. J'aimerais poser une question. Là, on s'interroge sur les semaines de 4 jours ou 4 jours et demi. On revient aux semaines de 4 jours. Et je me demande pourquoi il n'y a pas une réflexion sur les vacances d'été qui sont longues. Ces vacances qui sont longues, où des fois, certains élèves perdent certains acquis qui sont à reprendre au mois de septembre. Et je me demande pourquoi ces vacances-là, finalement, on ne pourrait pas regarder la même durée à peu près, mais mieux la répartir dans l'année, ce qui éviterait d'avoir des périodes scolaires longues où des enfants sont fatigués et ont du coup plus de difficultés d'apprentissage.
Jean-Marc Huard, merci beaucoup pour votre question, Patrick. Jean-Marc Huard, elle est sur le tapis, cette question, non ?
Elle est sur le
plus
tapis.
Moins,
juste un mot sur la formation, c'est absolument essentiel et c'est une priorité dans le premier degré. Et l'entrée dans le métier des enseignants, de manière à les accompagner davantage, est un point tout à fait prioritaire.
Alors, est-ce que les vacances sont sur le tapis ?
Le ministre a annoncé qu'il ouvrirait une réflexion autour du temps et de l'espace de l'enfant.
Donc ça veut dire que c'est sur le tapis, excusez-moi, c'est très éducation nationale ce que vous venez de me dire. Ça veut dire que c'est sur le tapis, donc.
Il y a une réflexion sur le temps de l'enfant, inévitablement. On le voit, hein, les débats sont souvent passionnés.
Mais c'est intéressant ce qu'il dit Patrick, parce qu'il dit pas il faut juste réduire les vacances d'été. Il dit oui, mais il y a peut-être une meilleure répartition à voir. Je sais qu'on est aussi en train de discuter aux 15 jours de la Toussaint, est-ce qu'il vaut mieux pas qu'il y ait plus d'une semaine et qu'on se répartisse plus? Est-ce que c'est la totalité dont vous vous dites pourquoi pas recommencer cette répartition? Après tout, pourquoi pas? Moi, je me souviens, je retournais le 15 septembre, hein, quand j'étais petite. Après, il y a eu d'autres périodes au 1er septembre. Est-ce que vous seriez favorable à
Liliana Moyano ? C'est une vraie question et nous avons demandé, nous l'avons dit au ministre, nous le demandons depuis longtemps, la question de l'architecture du calendrier scolaire se pose d'une manière cruciale. Effectivement, ça ne correspond plus à rien aujourd'hui, la manière comme le calendrier est fait. Il faut savoir qu'en France, nous avons moins des heures d'école qui est dans beaucoup d'autres pays, avec effectivement des semaines extrêmement denses, fatigantes, et maintenant avec le retour à la semaine de 4 jours, on y est dedans, et avec cette période d'été qui sont extrêmement longues et qui créent une vraie rupture par rapport aux périodes d'enseignement. Donc là, il faut quand même qu'on y travaille, qu'on pose la question de l'architecture du calendrier scolaire sur la table. Donc, c'est extrêmement important.
Les parents réfléchissent, le ministre va concerter, que disent les professeurs, Stéphane Crochet? C'est la question tabou les vacances, très sérieusement,
non,
ou pas du tout ?
Non, elle n'est pas tabou, mais du coup, nous n'allons pas avoir assez de temps pour en parler complètement.
Non,
parce que les vacances, elles ont débuté le 7 juillet pour les élèves d'école maternelle et d'élémentaire. Souvent autour du 20 juin pour les collégiens, souvent autour du 10 juin pour les lycéens. Et les vacances, elles structurent toute la société. Donc bon courage au ministre pour ouvrir ce dossier.
C'est pour ça que la question est bien plus vaste. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce téléphone sonne.